Frères et sœurs, il est bon de pouvoir bénéficier de cette lumière du ciel. Il est bon pour nous de pouvoir entendre aujourd'hui cette lumière, ce chant de joie des bienheureux qui voient la face de Dieu, de ceux qui, au cœur de leur vie, ont vu jaillir et emplir tout leur être par la victoire du Christ. Dieu ne nous a pas mis au monde pour faire de la terre un immense cimetière. Dieu nous a mis au monde pour que nous puissions partager sa vie bienheureuse avec lui. Il est important de l'entendre en cette période troublée, troublée par les tensions internationales, troublée par l'inflation et la situation économique qui touche durement chaque individu ou chaque famille. Pour notre société où le lien se dégrade, où la violence se répand, il est bon de recevoir cette lumière pour ne pas laisser le poison de la désespérance grignoter petit à petit notre esprit et notre cœur. Le livre de l'Apocalypse nous levait un voile, c'est bien le sens du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, dévoilement, révélation, un livre donné en période troublée justement pour que les cœurs qui se disent « mais comment se fait-il que nous soyons bousculés comme cela ? Dieu nous aurait-il oublié ?» Les livres du style apocalyptique ont cet objectif de nous dire « l'histoire est comme un rouleau et nous allons le dérouler devant vos yeux pour que vous compreniez où nous en sommes. Non, le Seigneur n'a pas oublié sa promesse et sa victoire est sûre. » Quand bien même le combat continue encore, l'issue du combat ne fait pas de doute. Et voilà déjà ceux qui voient la face de Dieu. Et voilà déjà ceux qui goûtent à sa victoire. Ceux qui sont auprès de Dieu, et j'allais dire, qui ne sont pas des privilégiés qui seraient passés entre les gouttes. Voilà, ils auraient eu une vie un peu sympathique, à travers lesquelles il n'y aurait pas eu d'épreuve. Non, il nous est dit, ce sont ceux qui ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que ce sont ceux qui ont vécu de cette mort et cette résurrection du Christ, qui ont laissé leurs peines, leurs efforts, être ressaisis, purifiés, relevés, sanctifiés par la mort et la résurrection de Jésus. Et ils viennent de toutes les nations, nouveaux peuples, ces fameux 144 000. Alors n'allez pas essayer de vous dire 144 000, mais depuis le début des temps, il reste encore des places. Alors ça, ce serait la manière de penser des témoins de Jéhovah. La symbolique de l'Apocalypse est justement 12 fois 12 000. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, il y a une surabondance, 1 000, c'est une multitude. Le Dieu veut vraiment son salut, il offre son salut à tous. Et leur vision témoigne, c'est possible. La victoire du Christ se répand, elle se partage aux hommes, elle se partage à toi. Elle t'est donnée pour ta vie, elle t'est donnée pour ta vie aujourd'hui. Espère en Dieu et prends courage. Il a vaincu le monde, il a vaincu les forces de la mort. Et puis, elle a tout ça en même temps qu'elle vient nous rappeler cette espérance, elle vient nous redonner cette lumière de la victoire du Christ. Elle veut nous donner aussi de comprendre quelque chose de la vie du paradis. Alors c'est, j'allais dire, toujours un peu compliqué parce qu'on aimerait bien, est-ce que vous avez un emploi du temps, une journée type au paradis, comment ça se passe? Alors ça, on ne peut pas vous le donner. On ne peut pas vous le donner et pourtant il y a bien une affirmation, c'est que le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui dit ça, au numéro 1024. Le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme. L'état de bonheur suprême et définitif. Donc, quand dans votre cœur, vous avez une hésitation, vous lisez l'Écriture, vous dites, c'est ça le paradis, ça n'a pas l'air très bien, ça a l'air un peu ennuyeux, quoi ça. Alors, ça veut dire que ce que vous représentez, c'est pas le paradis. Et rassurez-vous. Le paradis est vraiment ce qui comble les aspirations de notre cœur. Et le catéchisme continue en disant que la vie du ciel, c'est une vie parfaite avec la très sainte Trinité, une communion de vie et d'amour avec elle. Alors, c'est des paroles, on va dire, c'est très très ramassé, et parfois on a du mal à comprendre, mais qu'est-ce que ça peut signifier cela? Bien, je voudrais essayer de méditer avec vous un instant sur ce que la vie avec la Trinité peut signifier pour nous. On va regarder un point avec le Père, un point avec le Fils, un point avec l'Esprit. Le Père, c'est celui qui nous donne la vie. C'est celui qui nous donne la vie. Alors quand on entend ça encore, on pourrait le restreindre. C'est simplement une image de, voilà, un homme et une femme se sont rencontrés, ils ont donné la vie à un enfant. C'est seulement ça, le moment, l'étincelle, le départ. Non, la vie, c'est plus que ça. C'est pas simplement le point de départ, c'est pas la pichenette qui donne l'élan. Regardez, j'allais dire, les souvenirs que nous pouvons avoir avec nos parents. Notre père, c'est pas simplement donc celui qui, avec notre mère, nous a mis au monde, c'est celui qui nous a appris à marcher, c'est peut-être celui qui nous a appris à aller à la pêche, c'est celui dont nous avons encore les expressions pour manifester la joie ou pour manifester l'embarras. On a ces mêmes mimiques, on peut avoir ces mêmes paroles. C'est celui qui nous a appris à jouer à ceci, à gagner à ceci, à nous relever quand nous avions perdu. C'est celui qui nous a bénis. Et nous voyons qu'il y a toute une histoire autour de celui qui nous donne la vie. C'est pas, je le répète, pas une pichenette et puis il n'y a plus rien. C'est une terre dans laquelle nous sommes profondément enracinés et dans laquelle nous tirons notre vie. Nous tirons notre vie. C'est différent d'une fleur coupée. Une fleur coupée, ça va tenir un peu et puis ça va faner très vite. Mais quand la plante est dans la terre, elle vit, elle passe les saisons. La vie bienheureuse avec le Père, c'est d'être plongé justement dans celui qui nous donne la vie et une histoire. Rappelez-vous, quelle la parole du Père au Christ quand il entre dans le monde pour son ministère public, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Voilà que cette parole nous sera partagée en plénitude. Vous savez, parfois on se pose la question, est-ce que je suis aimé? Est-ce que je suis aimable? Et c'est quelque chose qui est, on le voit bien, c'est parfois un carcan pour nous, parce qu'on n'ose pas aller à la rencontre de l'autre, parce qu'on n'est pas sûr d'être aimable. Comment est-ce que je peux être reçu? La vie du ciel, c'est cette certitude, c'est ancré, parce que le témoignage du Père, nous le recevons directement. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis tout mon amour, toute ma bienveillance. Voilà un élément de ce que la vie bienheureuse avec la Trinité nous donne. Parce que le Père nous donne la vie, nous donne la vraie lumière, la belle lumière pour éclairer notre vie. La vie avec la Trinité, c'est aussi la vie avec le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Fils, c'est le Verbe du Père, la parole du Père. Alors là encore, oh, là, c'est bien compliqué ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais peut-être que là encore nous appuyons sur notre expérience avec une parole qui peut être toute simple, mais nous voyons combien elle est difficile, la parole qui veut dire « je t'aime ». Pas beaucoup de mots, hein, un, deux, trois mots. Mais c'est une parole qui est extrêmement difficile à prononcer. C'est une parole qui est extrêmement difficile à prononcer parce que nous voyons bien qu'elle engage au-delà de simplement des mots sur une feuille. C'est une parole qui doit dire, qui doit exprimer ce que je suis, qui doit exprimer mon élan vers toi, qui doit l'exprimer non seulement de façon juste, mais aussi d'une façon que tu puisses recevoir. Et alors celui qui a voulu écrire une lettre d'amour, il se souvient combien il a transpiré avant de l'envoyer, en disant « je peux envoyer ça, je suis pas sûr ». Et vous voyez, être uni avec le Verbe, c'est être uni avec cette capacité de dire avec justice, avec justesse, de dire pleinement, et de dire de façon à être reçu, parce que cette parole n'est pas simplement une expression égoïste tournée vers soi-même, mais une expression qui est tournée vers l'autre. Et vous savez bien comment parfois il y a des paroles qui nous ont touché le cœur. Et on a été tout saisi, parfois tout interdit que cette parole nous touche le cœur. Bien, c'est cette grâce que le Verbe de Dieu nous donne. C'est cette grâce que le Verbe de Dieu nous donne de pouvoir exprimer, dire cette parole juste, pleine, lumineuse, et cette parole qui touche le cœur. Voilà l'une des grâces de la vie avec la Trinité. On a vu une grâce avec le Père, une grâce avec le Fils, mais aussi une grâce avec l'Esprit. L'Esprit qui est communion, communion d'amour. En quoi est-ce que c'est important? C'est que l'Esprit Saint, il permet justement la communion, une union, une alliance qui respecte la singularité des personnes. Vous savez, dans un groupe, parfois, on a l'impression qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule tête, qu'on ne voit pas la différence, qu'il y ait une uniformité. Et souvent ça, dans l'adolescence, on prend les mêmes codes vestimentaires, les mêmes expressions pour bien faire partie du groupe, là. Et en même temps qu'on a besoin de ça, pour savoir qu'on fait partie d'une communauté, c'est important, parfois on se dit, mais j'ai pas l'impression d'être ni reconnu, de pouvoir m'exprimer. On a peur d'être écrasé par le groupe. Ou bien parfois ça peut nous arriver dans une conversation, ça peut être nous ou un autre, parle tout le temps et très fort, comme si s'il perdait la parole, il allait disparaître. La communion dans l'Esprit Saint, c'est l'assurance d'avoir notre place. L'assurance d'avoir notre place, non plus dans une concurrence à la manière de « il ne doit en rester qu'un » ou « alors si tu es là, c'est que tu respires mon oxygène et que tu broutes mon herbe, donc je voudrais bien que tu t'écartes. » Non, c'est une présence l'un avec l'autre qui met en valeur les uns par rapport aux autres. Vous voyez, la présence de l'autre n'est plus un obstacle, n'est plus un risque de dissolution, n'est plus un rival que je dois écarter. La présence de l'autre sera un motif de joie parce qu'il dira quelque chose de mon identité, il la révélera. Et moi-même, je révélerai quelque chose de son identité. On a cette image que l'on peut voir, j'allais dire, à travers la musique, à travers les instruments. Une image que j'aime bien reprendre dans la symphonie où vous avez de multiples instruments, certains qui sont très forts comme les cuivres ou les cymbales, et puis vous en avez d'autres qui sont tout petits, le petit triangle. Alors on pourrait se dire justement, ah là, je suis le petit triangle, qui voulait que je me fasse entendre quand tous les cuivres résonnent ensemble. On va dire, j'ai pas eu de chance, là, j'ai tiré le mauvais instrument. Et vous voyez que le compositeur a prévu le moment où tous feront la place pour introduire ce son si particulier du triangle. Le compositeur qui est Dieu dans l'Esprit Saint nous donne de trouver notre place, nous donne à notre place de pouvoir retentir justement comme elle se doit. Voilà ce que la communion de l'Esprit Saint nous permet, un cercle vertueux de notre présence les uns aux autres. Non plus, je le répète, l'obstacle, mais ce qui mettra en valeur l'autre, et l'autre nous mettra en valeur, dans une joie qui se renouvelle. Je voudrais terminer en disant que la promesse du paradis, ce n'est pas une promesse ennuyeuse. Vous savez, vous connaissez la parole, la boutade de Woody Allen, « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin ». Parce qu'on a l'impression qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tourner en rond? C'est pas du tout ça, justement, parce que, vous voyez, Dieu est mystère. Qu'est-ce que ça veut dire, mystère? Ça veut pas dire qu'il est inconnaissable. Parce que, justement, au paradis, nous le verrons face à face, nous le verrons directement. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Il n'y aura pas besoin de l'intermédiaire d'une créature. Nous verrons Dieu directement. Et en même temps, on n'aura jamais fini de le connaître. Il y aura toujours quelque chose à découvrir, on n'aura jamais fait le tour. Et donc, il y aura toujours une surprise, toujours un renouvellement, toujours un émerveillement. Le paradis, c'est le lieu de l'émerveillement, et c'est le lieu de l'émerveillement partagé. Vous savez, comme ça nous arrive parfois de voir un beau tableau ou un beau paysage, et de dire à celui qui est à côté de nous, « Regarde ça, est-ce que tu l'as vu ?» Peut-être justement on ne l'avait pas vu et son regard m'a permis de le découvrir. Et donc, les uns avec les autres, les saints entre eux, avec les anges, nous aurons cette joie de découvrir Dieu et de le faire découvrir. C'est le lieu où la nouveauté et l'émerveillement s'expriment. Ce n'est pas le lieu où tout est figé, où tout se couvrirait d'une poussière éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, de nous offrir de partager cette vie. Béni sois-tu, Seigneur, de nous l'offrir à tous, de nous montrer que ta victoire déjà s'est répandue dans de nombreux saints. Saints du ciel. saints de nos familles, saints de notre lignée, priez pour nous dans ces temps où nous sommes éprouvés dans nos existences. Priez pour nous en particulier quand nous sommes tentés de désespérer. Accordez-nous de goûter un écho de cette gloire du Christ que vous partagez déjà. Accordez-nous en ce jour d'être remplis d'un rayon de cette lumière pour retrouver cette joie et cette fierté d'être les fils du Père, les frères du Christ, les temples de l'Esprit, appelés, invités à la vie bienheureuse. Amen.